France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, dans les bandes du rock. Épisode 5, Noir Désir, la fin de l'illusion.
Vous l'entendez comme moi, c'est du délire ici, à Nancy. Un petit salut de Bertrand avant de sortir de scène. J'espère qu'ils ne sont pas aussi pressés que ça et qu'on ne va pas en rester là. Surtout qu'ici, salle Poirel, on veut en découdre, on en veut encore.
Cette archive date du 7 mai 2002. Noir Désir est alors considéré comme le plus grand groupe de rock en France. Bertrand Cantat est la star nationale. À part peut-être avec Téléphone, dont on a déjà parlé, c'est la première fois que notre pays connaît un tel engouement pour un groupe de rock de chez nous. On se dit même que si ça se trouve, on a repoussé la malédiction, on a inventé un rock chanté en français, avec des ingrédients sourcés localement, sans copier les autres, un rock original, différent, aux accents latins et aux influences espagnoles. Les protagonistes de ce que l'on considère alors comme un petit miracle sont au nombre de quatre, Serge Tessoguet, Denis Barthes, Jean-Paul Roy, et aussi évidemment le chanteur par qui tout va s'abîmer, son charismatique gourou, le sombre qui prend si bien la lumière, Bertrand Cantat. En 2002, Noirdaise a vendu plus de 6 millions d'albums. Le groupe a été récompensé aux Victoires de la musique. Il sait plaire au grand public sans faire de compromis. Vu de l'extérieur, c'est donc un sans-faute. Et puis politiquement, le groupe prend position en se déclarant ouvertement anticapitaliste, antimondialiste et antifasciste. Il agrège derrière lui de larges pans de la société française et fait office d'étendard. Ce rôle d'étendard politique, on en entend les échos dans une Black Session de France Inter qui fait suite au 21 avril 2002, le jour qui a vu Jean-Marie Le Pen accéder au second tour de l'élection présidentielle.
C'est pas parce que le 5 mai, nous avons élu Chirac, entre autres...
Entre autres nous, je veux dire.
Qu'il faut s'arrêter là, parce que ça va pas suffire hein, pour faire un gros sursaut.
Dans les bandes du rock, une série en 6 épisodes de Salle des Archives, proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire, attachée de production, Lily Corner.
Pour les fans du groupe, ce qui va arriver ensuite est absolument inimaginable. 14 mois après cette Black Session, leur star adulée, Bertrand Cantat, va tuer sa compagne Marie Trintignant en la tabassant d'abord, puis en attendant plusieurs heures avant d'appeler les secours alors qu'elle est inconsciente auprès de lui et nécessite de toute évidence les soins les plus urgents. Dans le documentaire intitulé « Le cas Cantat » diffusé en 2025 sur Netflix, le médecin légiste qui a examiné l'actrice décrit les séquelles fatales de ce passage à tabac.
L'examen externe va montrer un grand nombre de lésions. Des lésions du cuir chevelu, des lésions de la face, à l'évidence aussi une fracture ouverte du nez. Derrière le larynx, on va retrouver des ecchymoses occasionnées possiblement par quelqu'un qui chevauche, qui met éventuellement une jambe au niveau du cou de la personne et qui est dessus. Lors de l'ouverture du crâne, on va voir que la violence des coups a été extrême. Les lésions là sont trop nombreuses pour qu'il y ait juste une chute. Là, il y a des lésions de souffrance intracérébrale et de saignements intracérébraux. Il y a cet hématome très important. L'ensemble exclut un seul mécanisme de traumatisme crânien. Et c'est au moins une quinzaine, une vingtaine de coups reçus. Ils sont extrêmement nombreux. Ces coups n'ont pas pu être portés en quelques secondes.
Personne n'aurait pu imaginer un tel niveau de violence de la part de ce chanteur adulé du public. Personne, en fait, c'est toute la question. On se demande aujourd'hui si une chape de silence n'a pas protégé Bertrand Cantat avant comme après la mort de Marie Trintignant. Mais au-delà, Bertrand Cantat lui-même ne savait-il pas depuis longtemps qu'il portait cette violence en lui ? C'est ce que l'on se demande à l'écoute d'une archive enregistrée le 10 janvier 1990 et que nous allons vous faire écouter. Sans vouloir la réinterpréter à l'aune de ce que l'on sait aujourd'hui, cette parole vieille de 35 ans reste néanmoins troublante. Cantat est alors âgé de 26 ans et Noir Désir vient de connaître son premier très grand succès avec la chanson « Au sombre héros de la mer ». Le présentateur Jacques Erwan l'interroge ce jour-là justement au sujet de la violence.
Bertrand Cantat, de Noir Désir, il y a une chose qui m'étonne. Quand on vous a comme ça en face de soi, on voit un garçon épanoui, souriant, lumineux. Et pourtant, ce que vous chantez, tous les quatre, en scène, ce que vous jouez, c'est assez sombre.
Oui.
Non ?
Oui, oui.
Le beau ténébreux, on dit en parlant de vous. Vous n'avez pas l'air d'un beau ténébreux comme ça, apparemment.
Non, mais je crois que là encore, c'est pas... Ça paraît contradictoire, mais ça ne l'est pas du tout.
C'est une image... de scène, disons, qui ne correspond pas à ce que vous êtes foncièrement, ou c'est tout simplement une phase différente?
Ça correspond à, si, ça correspond complètement à plein de choses qui viennent de l'intérieur, si. Mais je pense pas... c'est un respect des autres, aussi, une pudeur, ou une, je sais pas, moi, j'aime aussi être comme ça, complètement naturel, et pas justement absolument être obligé de respecter une image où... Il y a aussi le fait de faire des efforts.
Et la violence?
Bah, elle est
une certaine violence qui émane de vous. Non, mais elle est partout, oui, bien sûr.
Oui, mais c'est de l'exorcisme, ça, hein, pur. Hein. C'est de l'exorcisme. J'ai une peur bleue de la violence.
C'est pour ça que... Oui,
vous l'exorcisez. Ah oui, ça ressort hein, à un moment ou à un autre. Mais ça, et ça ressort. Ça ressort régulièrement.
Marc Bess, vous êtes journaliste musical et scénariste, auteur de Noir Désir, point final aux éditions Ring. Alors évidemment, il ne faut pas réinterpréter une archive avec la connaissance qu'on a de la suite de l'histoire, mais tout de même cette phrase « j'ai une peur bleue de la violence » sonne rétrospectivement un peu comme un aveu de Bertrand Cantat de sa propre violence et de la conscience qu'il pouvait avoir d'être violent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je trouve l'archive absolument saisissante. Je la rapprocherai également d'autres déclarations qu'il avait faites à l'époque dans Les Inrecuptibles, en 1987, où, interrogé sur les influences littéraires qui étaient les siennes, il parlait de William Faulkner et de Hubert Selby. Et il disait cette phrase terrible, « Les gens sont damnés dès l'origine ». Et finalement, quand on se rappelle de cette phrase donnée en 1987, on s'aperçoit que effectivement, il y avait presque quelque chose de prémonitoire chez lui. Et c'est ça qui est assez terrible, c'est qu'en fait, il a passé son temps à nous donner des signes très clairs de quelqu'un qui a trouvé dans la musique à la fois un exutoire, une manière de s'exprimer et une manière de faire exister quelque part un autre Bertrand Cantat qui est en lui et qui est autre que le beau ténébreux dont parlait Jacques Erwan tout à l'heure.
Comme s'il avait peur presque de qui il était et peur de lui-même et au fond qu'il sentait le possible dérapage.
Je crois que c'est un petit peu le quotidien des gens qui font du rock. Il y a à un moment une capacité dans cette musique à cristalliser l'essentiel de ce qui peut être la violence d'un auteur, comme pouvait l'être à l'époque la littérature, à l'époque de Antonin Artaud, ou comme a pu l'être la peinture avec Francis Bacon et Van Gogh, quoi. Maintenant, tant que ça reste orienté vers les instruments, vers un système d'expression pur, et qui en plus se double d'un talent comme était celui de Noir Désir, tant mieux. Après, il y a des artistes qui ont connu des sorts nettement plus funeste par rapport à la violence, quoi, mais qui la plupart du temps le retournait contre eux. On peut penser à Daniel Darc de Taxi Girl, on peut penser à tous ces chanteurs qui se sont suicidés, notamment la fameuse génération des 27 avec Kurt Cobain.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une complaisance tout de même, justement, et notamment peut-être du milieu médiatique et du milieu artistique, à présenter la violence comme étant consubstantielle au fond de la création dans le domaine du rock?
Non, parce que je pense que il y a aussi dans le public une volonté de recevoir cette décharge électrique, cette urgence. Après, il y a dans le cas du rock français, il y a peut-être aussi autre chose, c'est que on a fait l'amalgame, on a réussi à faire l'amalgame, pardon, entre ce qui était le poids des mots et la modernité de la musique. Et le poids des mots français, quand on tout à l'heure je parlais dans Antonin Artaud, on pourrait parler de Baudelaire, on pourrait parler de Verlaine et de plein d'autres, ne sont pas gratuits. Mais à l'époque, tant que ça restait écrit ou dans des bouquins, bon, on disait « Ah, la grandeur de la littérature française ». On a commencé à dire « Ah, la grandeur du rock français », avec des gens comme Alain Bachung, ou comme Noir Désir, ou comme Jean-Louis Murin, qui ont réussi à mélanger, je veux dire, Rimbaud et Robert Johnson, quoi, et le blues. Bon, à partir de ce moment-là, le rock est se composé entre un talent d'écriture dans lequel s'exprime une violence des mots et un talent de son et de mélodie et de rythmique à travers lequel il s'exprime musicalement.
Mais malgré tout, vous n'avez pas l'impression que l'idée, finalement, que être un rocker, c'est être forcément dans une sorte de passion, constitue une excuse finalement à l'emprise que Bertrand Cantat, par exemple, et peut-être d'autres, ont exercé, continuent d'exercer sur les femmes notamment.
J'irai pas jusque-là, je pense pas que cette excuse soit voulue, décidée, planifiée, stratégisée. Je pense que Bertrand Cantat est avant tout naufragé de lui-même. Et à un moment, il a complètement dérapé. Parce que.
Mais vous êtes d'accord pour dire, Marc Besse, que la victime, c'est Marie Trintignant?
Ah ben absolument. Là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Quand je dis il a dérapé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et sauf que là, on a vu Mr. Hyde.
Ce thème de la colère et de la violence extériorisé sur scène par Noir Désir, on en retrouve une autre trace, en passant, dans un entretien du chanteur avec la journaliste Pascal Clark dans son émission Tam Tam, etc. Nous sommes début septembre 2001.
Alors des visages, des figures, effectivement, on a l'impression que c'est une nouvelle direction. Et on a tout de suite envie de dire que c'est moins en force, voire moins au forceps. Vous l'acceptez, ça ?
Moins frontal, ouais. Oui, on l'accepte, ouais. Je veux dire, ça va. L'éventail a toujours été assez large, mais c'est vrai que chez nous, c'est la colère qui a toujours dominé. Et d'ailleurs, elle n'est pas éteinte, faut pas rêver. Mais on avait envie d'affirmer plus loin d'autres couleurs, parce qu'on les a en nous. Et que si c'est pas l'heure maintenant de le faire, quand est-ce que ça va être l'heure ?
Marc Besse, on entend Bertrand Cantat qui fait presque de l'humour dans cette archive. C'est devenu tout de même presque inaudible pour beaucoup de personnes, vous le comprenez ?
Et qu'est-ce qui est devenu inaudible ?
Ce qui est devenu inaudible, c'est qu'un criminel puisse être entendu en train de faire de l'humour, en fond.
Ah non, mais ces interviews sont inaudibles, parce qu'en fait, elles trahissent maintenant que tout ça s'est déroulé et que ça nous a mis par terre. Tous les gens qui voyaient dans Noir Désir un parangon de modernité musicale, y compris pour cet album dont il parle, Des visages, des figures, tout le monde était par terre. J'imagine ce qu'ont dû penser des artistes qui ont collaboré avec eux, comme Brigitte Fontaine. On ne peut réécouter ces interviews qu'avec consternation.
Si on met un peu Bertrand Cantat de côté, dans l'histoire du rock français, puisque on fait une histoire du rock français dans cette série, qu'est-ce qui serait la place de Noir Désir selon vous ?
En fait, ils ont su marier Rimbaud avec Robert Johnson. C'est-à-dire que le blues et la langue française ont finalement trouvé un alliage assez incroyable, d'une part. Et ensuite, une exigence musicale qui était, pour le coup, impulsée beaucoup plus par Serge Tessoguet, qui est la personne qui, à mon sens, au niveau strict musical, a amené le groupe à ce niveau d'excellence. Là, on peut pas refaire ce genre de magie 20 fois.
Pour le journaliste aux Inrocks, J.D. Beauvallet, Noir Désir était devenu, avant le meurtre de Marie Trintignant, une statue du commandeur qui avait inhibé plus que libéré le rock français. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Besse ?
Oui, j'en veux pour preuve le nombre d'ersatz de Noir Désir qu'on a pu voir à l'époque sur la scène rock française. Combien de gens ont essayé, notamment après le deuxième album du Ciment sous les plaines, donc on était en 90, ont essayé de faire du Noir Désir ou d'essayer de trouver un petit chemin parallèle, une petite voie d'accès vers ce qui pourrait être un rock d'obéissance au Noir Désir. Je pense à des groupes comme Black Maria, par exemple, qui a essayé ça et qui n'y est pas arrivé plus de 2 albums.
Revenons à l'éléphant dans la pièce, Bertrand Cantat et la violence.
Par quelques bouts qu'on regarde le Kakanta, celle-ci est bien présente. On apprendra plus tard qu'il avait la colère facile depuis bien avant le meurtre de Marie Trintignant. D'autres histoires sont remontées à la surface, qui parlent de brutalité sur sa compagne précédente, Christina Radi. Des violences physiques et psychologiques, une jalousie telle qu'il cherchait à faire de la mère de ses enfants sa chose, un objet qu'il pourrait contrôler. Et puis on a appris qu'à la fin des années 90, le chanteur aurait même tenté d'étrangler une autre femme avec qui il vivait. Des révélations de l'hebdomadaire Le Point démenties par l'entourage du chanteur et qui n'ont pas à ce jour donné lieu à des poursuites. Après le meurtre de Marie Trintignant, il devient difficile pour certains fans d'accepter la chute de leur idole, tandis que d'autres ne peuvent plus écouter sa musique sans ressentir de la culpabilité, celle de cautionner un féminicide. Certains se sentent orphelins et cherchent depuis lors un groupe populaire qui pourra remplacer l'icône déchue, qui saura leur donner le même élan, la même émotion. Et on entend bien cette ambivalence dans cette archive qui date du 1er août 2003.
À Vilnius, Bertrand Cantat a passé sa première nuit officiellement en détention provisoire. La mesure court jusqu'au 14 août. Hier, ambiance irrespirable lors de l'audience devant la 3e cour de justice de la capitale lituanienne. Nadine Trintignant, la mère, a pris la parole pour demander que le chanteur de Noir Désir aille en prison. C'est essentiel pour le bien des enfants de Marie. Bertrand Cantat a demandé pardon. Il reconnaît avoir très violemment frappé l'actrice le week-end dernier à l'hôtel Domina Plaza. Mais je réfute le terme de crime, dit-il. C'est un accident après lutte, une folie, ce n'est pas un crime. Noir Désir, c'est le groupe de rock français numéro 1 depuis plus de 10 ans. Cantat, c'est le chanteur charismatique. Des milliers d'amoureux sont dans le désarroi. Parmi eux, Fabien, ces jours-ci, il a le sentiment que le groupe et son leader ont disparu.
C'est un gars qui, pendant 20 ans, s'est battu pour de nobles causes, contre le racisme, s'est battu pour les sans-papiers. Qu'il finisse sur une image aussi sale, c'est vraiment décevant. Quoi. Finir une carrière comme ça, c'est triste. C'est triste, c'est du gâchis. Quoi. J'ai du mal à accepter que le plus grand groupe de rock français soit terminé, quoi. Je suis partagé entre le fait que, bon, c'est vrai que ce qu'il a fait, c'est horrible, et d'un autre côté, je continuerai quand même à respecter l'artiste, quoi. C'est pas pour ça que je vais jeter tous mes disques de Noir Désir. Non, je continuerai à écouter Noir Désir, et puis j'écouterai peut-être plus de la même façon, quoi.
Marc Bess, on entend dans ce témoignage déjà ancien, 2003, la difficulté au fond pour ce fan d'abandonner d'un coup ce qu'il a aimé. C'est quelque chose qui se joue très fort avec Noir Désir du côté des fans. C'est au fond la difficulté de faire un deuil de ce groupe qui a représenté beaucoup.
Ce qu'il y a d'assez significatif avec Noir Désir, c'était que l'âge de leur public était quasiment leur âge. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai du mal avec le terme fan. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça a vraiment correspondu à une génération qui avait besoin de cette musique et qui avait besoin de voir dans un groupe de rock français ce genre de posture politiquement, socialement, musicalement. Noir Désir était représenter une génération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce témoignage que vous diffusez rejoint un argument qu'on entendait beaucoup en 2003 au moment des faits, qui était qu'il faut aller presque séparer l'homme et l'artiste. Alors déjà, comme je le disais en début d'intervention, l'homme et l'artiste sont indissociables. C'est-à-dire que l'artiste, quelque part, soigne l'homme. Comme disait Nietzsche, à force de combattre le dragon, on devient le dragon soi-même. Hein. D'autre part, dans l'artiste qu'on veut voir dans Bertrand Cantat, on néglige les trois autres qui font partie du groupe. Ce n'est pas parce que un chanteur est exposé et sous les stylitiques et en plein sous les projecteurs et devient malgré lui le porte-parole d'un groupe qu'il est tout seul. Et très souvent, et c'était le cas dans Noir Désir, c'est quand même Serge Tessoguet, la section rythmique, qui est arrivé à dessouder bien nombre de morceaux, tant au niveau sonique qu'au niveau harmonique et mélodique.
Même si le groupe faisait corps autour, au fond, de son leader.
Oui, après, il y a une voix, il y a une gueule, il y a une posture, il y a une faculté à se comporter devant les médias, qui fait que, ben, même pour l'ensemble du groupe, ça devait être bien quand même confortable de savoir que tant que Bertrand y allait, Noir Désir était représenté.
Nous avons cherché dans la salle des archives s'il existait d'autres voix que celle du leader pour incarner Noir Désir, mais il faut bien avouer qu'elles sont très peu nombreuses. Cela montre que les micros se tournaient toujours en priorité vers le charismatique Kanta. Denis Barthes, par exemple, le batteur, s'exprime assez peu, mais voici l'une de ses rares interventions sur France Culture, elle date de juillet 2002.
On produit des substances très très particulières quand on joue, et j'ai jamais trouvé ça ailleurs, même quand on, je sais pas, on fait du sport quoi, où tu ressors, t'es complètement trempé jusqu'aux os. Sur scène, ça se termine toujours comme ça, de toute manière. Enfin, dans tous les cas, pendant très longtemps, c'était le cas. Mais non, ça bouge. On a des choses qui sont très rock'n'roll, encore très très jetées, et puis des choses qui sont complètement posées, très intérieures et tout. Mais on doit produire des choses, des substances étranges, parce que c'est proche du vertige permanent qu'on va chercher aussi, parce que c'est lié au plaisir, tu sais. Hein. On va chercher ce vertige qui va nourrir la musique, parce que du coup on fait musicalement des choses qu'on ne ferait pas si on n'est pas dans cet état. On joue pas de la même façon. Je crois que le stress fait qu'on a une odeur qui est très particulière, qui est affreuse, et on a une sueur qui est totalement acide. Donc on bouffe complètement tous les micros des guitares, les potards du volume, machin, tout ça. Ça tient pas longtemps parce que cette sueur, elle est corrosive.
C'est marrant d'entendre la voix de jeune homme de Denis, déjà. Ça fait, mais Denis était quelqu'un qui parlait peut-être très peu devant les médias, mais qui derrière parlait très volontiers du groupe et de la vie intérieure du groupe.
Mais si on l'entendait peu, c'est peut-être que les médias, au fond, ne l'interrogeaient pas.
Ben oui, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait c'est la totipotence du chanteur de rock. Bon, on pourrait en citer mille milliards d'exemples.
D'ailleurs, si c'était un autre membre de Noir Désir qui avait commis les crimes de Kanta, au fond, le groupe aurait probablement continué sa route.
Ça se pourrait bien, oui.
Noir Désir.
Il faut dire que les journalistes, tout comme le public, ont été subjugués par la personne de Bertrand Kanta. Peut-être parce qu'ils sentaient son attrait pour le vide, la violence qui voisinait chez lui avec la candeur, réelle ou feinte, et son idéalisme revendiqué. Tout cela a créé une illusion, un cocktail hypnotique, celui d'un personnage tragique et romantique à laquelle tout le monde avait envie de croire. La réalité des coups portés sur ses compagnes, sa non-assistance à personne en danger, la réédition de cette violence a longtemps pesé moins lourd que notre envie collective de continuer à rêver sur ce personnage de beau ténébreux. Et puis le storytelling autour du groupe avait tout pour plaire. Il se présentait comme un collectif différent qui cultivait la marge et refusait les mondanités, professait une vie simple entre copains et des engagements humanistes en politique. De quoi faire rêver sur l'idée que l'on pouvait tout à la fois accéder au statut de star et rester humain. Là encore, la désillusion allait être à la hauteur de la grandeur du mythe. Écoutons une archive du jeune Kanta dans sa version humaniste et charmeuse, un document parmi d'autres qui permet de mieux comprendre pourquoi nous nous sommes tous retrouvés à son sujet, au cœur d'un nuage d'illusions. Cette archive date du 23 janvier 1990.
On est une bande d'amis, de toute façon, en passant par le manager et le road manager. C'est que des gens qui sont connus à Bordeaux il y a une dizaine d'années. Noir Désir, c'est ça, c'est des amis disons d'adolescence, et qui sont restés ensemble.
Alors vous êtes donc originaire de Bordeaux. Il y a une scène rock renommée à Bordeaux.
Il y a une scène rock qui mérite de s'amplifier encore, et puis qui a besoin d'autres structures, qui a besoin de soutien, et il y a besoin aussi de gens valables et de groupes valables. Mais il y a une scène rock, il y a une certaine tradition rock, oui. Il y a une grande époque, celle des ST, avec Strychnine, Stalag, Standard.
Et comment expliquez-vous ça, le surgissement de groupes de rock comme ça, dans une ville qui a quand même la réputation d'être une ville relativement conservatrice, relativement bourgeoise?
C'est aussi parfaitement logique.
C'est une réaction?
Oui, ça peut être ça. C'est une réaction, et c'est une réaction normale, parce que il y a vraiment un côté lourd et figé dans Bordeaux, c'est vrai. Mais il y a aussi une pénétration de l'Espagne. Il y a tout un tas de choses qui permettent de connaître autre chose à Bordeaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la ville bourgeoise. Et à partir de là, il se passe des choses.
so much, what I need is over.
Parmi les désillusions pour les fans de Noir Désir, il y a donc ce modèle de vie qui semblait authentique et vertueux, qui était le storytelling au fond du groupe depuis le début, et dont on se rend compte que voilà, il cache d'autres choses.
Effectivement, Noir Désir prenait un malin plaisir à dire ben nous on est de Bordeaux, et puis on tient nos racines, et puis quand on enregistre dans les Landes, on enregistre au studio à Léon, au manoir. Quand ils allaient chez Barclay, leur grande vanne au début était de dire excusez-nous, on a gardé le tracteur en double fil, donc ne nous retenez pas trop longtemps. Je pense qu'ils s'en amusaient un peu plus de ça, mais Bordeaux vivait rock bien avant que Noir Désir n'arrive. Je dirais même que Noir Désir est presque le petit dernier de la scène des groupes de rock à Bordeaux. Je dirais avant eux, il y avait eu Caméra Silence, il y avait eu Strychnine dont ils parlent, et plein d'autres groupes dont ils parlent, et qui étaient les groupes en ST, qui faisaient les unes de rock and folk à l'époque.
Si Noir Désir n'a pas été officiellement dissous avant l'année 2010, le groupe prend fin de fait dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003 à Vilnius en Lituanie. Quentin est condamné à 8 ans de prison mais bénéficiera d'une remise de peine, ramenant à 4 ses années passées derrière les barreaux. Pour les autres membres du groupe, et notamment pour Serge Tessoguet qui a coupé les ponts avec son ancien ami, la suite évidemment est compliquée. On le comprend en filigrane dans cette archive, extraite de l'émission « Par les temps qui courent » du 28 janvier 2019.
Quand j'ai arrêté Noir Désir, c'était mon groupe, le groupe que j'ai créé. Donc, quand j'ai arrêté Noir Désir, j'ai demandé à la maison de disques de me rendre mon contrat parce que j'étais en porte-à-faux avec la politique d'Universal par rapport à la musique, par rapport à la loi Hadopi, la position qu'avait pris Pascal Nègre. J'étais pas du tout pour ça, j'étais pour la licence globale. J'étais contre le streaming, je le suis toujours tel qu'il est. En soi, le streaming, c'est juste fantastique. C'est une bibliothèque, une discothèque géniale, gigantesque, où on peut puiser là-dedans. Voilà, plus soif, c'est vraiment fantastique. Mais c'est juste que les artistes ne touchent pas un rond. C'est complètement faux, le fait que... Alors, les gens pensent qu'ils payent voilà, un abonnement 10 balles tous les mois à Deezer ou Spotify, je ne sais quoi. Et moyennant quoi, c'est redistribué aux artistes. Mais c'est faux, c'est ridicule. Pour toucher, on va dire, 20 euros, il faut que je vende... Faut que j'ai plusieurs millions de clics, que 50 millions de clics.
Marc Besse, qu'est-ce que vous entendez derrière ce que dit Serge Tessoguet sur, au fond, la difficulté d'être un artiste qui vit de sa musique? Ça prend, quand on connaît son histoire et l'histoire de Noir Désir, une dimension un petit peu spéciale.
Concernant le fait qu'on lui rende son contrat, si je peux me permettre, Serge avait également une carrière parallèle en tant qu'artiste solo. Il avait aussi des engagements avec beaucoup de groupes de rap qui, eux, étaient sur d'autres labels. Et pour lui, casser son contrat avec Noir Désir, c'était une manière de mettre fin à Noir Désir, avant tout. Parce que en fait, je pense pas qu'il ait demandé de casser son contrat pour ses disques solo, qu'il n'a d'ailleurs pas fait.
Après Noir Désir, au fond, le rock français n'a plus vraiment connu de groupe qui a chanté du rock en français avec un succès similaire. Est-ce que c'est concomitant pour vous avec une moindre appétence des auditeurs pour le rock, avec une montée comme ça du rap et de l'électro? Autrement dit, est-ce que c'est la fin d'une ère pour le rock français que la fin de Noir Désir?
Vous parlez du rock et du rap. Moi, je trouve que le rock et le rap ont très très bien cohabité pendant toutes les années 90. Il y a absolument eu aucun problème entre les deux genres. Il y a eu une classification des deux genres par les médias qui ont voulu voir dans le rap avant tout une musique de quartier, quoi. Ils considéraient le rock comme une musique historique. Alors le rock était content parce que le rock n'était plus la musique de la révolte. Le rap avait pris le strapontin quelque part. Mais je pense qu'il n'y a pas une moindre appétence pour le rock en France.
Après le naufrage Noir Désir, la French Touch et le rap ont largement surpassé le rock hexagonal, mettant en orbite des stars mondiales comme les Daft Punk ou PNL. Pourtant, un courant particulier du rock a émergé ces dernières années et connaît une très grande vitalité, je veux parler du métal. Il est porté par un festival, le Hellfest, que certains jugent devenu mainstream tellement son succès est grand, et aussi par le groupe français le plus connu dans le monde, Gojira. Mais qu'en est-il du métal dans les archives de Radio France? Eh bien, ce sera le sujet de notre sixième et dernier épisode.